السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، la dernière fois on s'est arrêté au fameux sentier de Al-Jirar, Sha'b Al-Jirar, dans la bataille de Uhud. Donc on a la fin de la bataille de Uhud, les hostilités ont pris fin, le professeur sallam a réussi à regrouper autour de lui les compagnons qui étaient dispersés sur le champ de bataille et à leur frayer un chemin jusque Sha'b Al-Jirar, le sentier de Al-Jirar. Mais comme ça reste une crevasse très exiguë, ils étaient toujours en danger, et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a fait escalader sur les rochers, et les idolâtres ont tenté une dernière attaque pour essayer de déloger les compagnons qui s'étaient réfugiés sur la montagne de Uhud, mais leur dernière attaque a échoué, et donc ils sont redescendus, ils sont repartis. Et on a vu la dernière fois que sur ce rocher, sur les montagnes de Uhud, les compagnons, ils sont apaisés. Ils sont apaisés parce que, à présent, ils savent que le prophète Hassan n'est pas mort. Ils sont tellement apaisés qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur eux l'assoupissement, ils vont s'assoupir, ils vont faire une sieste, ils vont somnoler, comme on l'avait dit. Et on avait expliqué que dans une situation aussi gravissime que celle-là, on ne peut pas dormir normalement. Mais s'ils ont pu dormir, c'est d'abord parce qu'Allah Azza wa Jal le leur a permis, et ensuite parce qu'ils étaient réellement apaisés en retrouvant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sain et sauf, même s'il était blessé. On a aussi rapporté de l'eau au professeur Asselem pour qu'il boive. Il a d'abord pris de l'eau qu'on lui a proposée, mais cette eau, il y avait une odeur dedans. Donc le professeur Asselem n'en a pas bu, mais il l'a utilisée pour se soigner ses blessures, pour nettoyer ses plaies. Et ensuite, c'est le compagnon Mohammed ibn Maslama qui lui a ramené une eau douce que le professeur Asselem a utilisée pour boire. Naam. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui va se passer sur le champ de bataille. Donc on a dit que les idolâtres, ils ont mené une dernière attaque pour essayer de déloger. Les compagnons, ils n'ont pas réussi. Et donc maintenant, ils retournent sur le champ de bataille. Et donc, ils vont devoir prendre des décisions. Beaucoup de décisions. Est-ce qu'on rentre chez nous? Est-ce qu'on va attaquer Médine? Ou on rentre directement chez nous, on attaque d'abord Médine. Ou alors on laisse Médine tranquille, on a eu ce qu'on voulait. C'est une décision importante à prendre. Et aussi, ils ont des morts. Et il y a aussi beaucoup de morts côté musulman sur le champ de bataille. Et c'est eux qui ont la suprématie sur le champ de bataille. Et ils sont là pour se venger de Badr. Est-ce que le fait d'avoir gagné, d'avoir tué autant de compagnons, ça leur suffit? Est-ce qu'ils vont faire comme le professeur Sima a fait à Badr? Le professeur Sima avait gagné à Badr. Et il y avait beaucoup de morts parmi les idolâtres. Et le professeur Sima les avait enterrés. Alors certes, dans une fosse commune, entre guillemets, mais il les a enterrés. Il n'a pas mutilé les corps, il n'a pas... Non. Le seul qui n'a pas été transporté pour être enterré, on avait dit, c'est Umayya ibn Khalaf. Pourquoi ? Parce que son corps avait commencé à se décomposer. On est dans le désert, la chaleur, etc. Et donc, les compagnons, ils ont dit au professeur, si on le prend, le corps risque de s'effriter en lambeaux. Et donc, le professeur leur a dit, dans ce cas-là, creusez en dessous et autour et enterrez-le sur place. Non. Sinon, tous les autres idolâtres ont été transportés et enterrés dans une des fosses de la plaine de Badr. Les idolâtres, ils ont devant eux, selon certaines versions, on reviendra sur ça, plusieurs dizaines de morts parmi les musulmans. Ils ont sur le champ de bataille éparpillé plusieurs dizaines. La version la plus reprise et la plus donnée par les historiens, c'est 70. Les idolâtres, ils ont face à eux 70 compagnons qui sont tués. À ce moment-là, on peut se dire que le pire que les idolâtres pourraient faire, c'est ne pas faire comme le professeur Anselme, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leur mort à eux et qu'ils laissent, qu'ils abandonnent les morts musulmans. Mais en réalité, ils vont faire bien pire que ça. À un tel point que s'ils s'étaient contentés d'abandonner les cadavres des musulmans, ça aurait été bien mieux que ce qu'ils vont faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mutiler les corps. Et selon les détails des nombreuses versions qui sont données, alors on va voir, hein, parce qu'il y a des versions qui ont été da'if, faibles, d'autres sahih, authentiques. Mais nous, pour l'instant, on donne une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé en fonction de toutes les versions, et ensuite on va venir sur les détails qui ont été authentifiés et les détails qui n'ont pas été authentifiés. Mais de manière générale, si on résume, on sait que les corps des musulmans morts sur le champ de bataille ont été mutilés. Les différentes versions, qu'elles soient authentiques ou non, rapportent que certains hommes, mais surtout les femmes idolâtres, leur ont découpé les oreilles et le nez. Et dans certaines versions, on parle même de la mutilation des organes génitaux. Et dans d'autres versions, il y a aussi le fait qu'ils ont été éventrés. Éventrés. Non. Alors, on va citer la version, une des versions les plus connues, qui est longue dans les détails, même si elle n'a pas été authentifiée, c'est celle d'Ibn Ishaq. C'est une version avec une chaîne de transmission faible, mais on va la citer parce qu'elle donne un certain nombre de détails, elle donne un certain point de vue. Dans cette version, on nous dit وقعت هند بنت عتبة والنساء اللاتي معها يمثلن بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. La version, elle dit, Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, la femme du chef des idolâtres, elle et les femmes qui sont avec elle, waqa'at ala wa nisa allati ma'aha, les femmes qui sont avec elle, yumathilna bil qatla min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Elles se sont mises à mutiler les morts parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle découpait les oreilles et les nez. حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدْ مِنْ أَذَانِ الرِّجَالِ وَأَنْفِهِمْ خَدَمًا يعني خَلَاخِيل خَدَمًا وَقَلَائِدًا. À un tel point que Hind faisait des colliers avec les nez et les oreilles. Alors, elle faisait des. En arabe, ici, utilisait le mot khadam. Le khadam, c'est les bracelets qu'elle mettait aux pieds, au niveau des chevilles. Wa qala'id et des colliers. Non. Wa a'tat khadamaha wa qala'idaha wa quratataha wahshiyan ghulama Jubayr ibn Mut'im. Et elle a donné certains de ses bracelets. Naam. Et de ses colliers et des boucles d'oreilles. Donc là, on rajoute qu'il y a aussi des boucles d'oreilles qui ont été faites avec ça, des pendentifs. Elle les a donnés à Wahshi, l'esclave de Jubayr ibn Mut'im. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que Jubayr ibn Mut'im, il avait payé Wahshi et il s'était engagé à le libérer à la condition qu'il tue Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et Hind, elle en veut beaucoup au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle en veut encore plus à Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et donc, le fait que Wahshi a tué Hamza, c'est une grande nouvelle pour elle. Et donc, elle tient à remercier et à récompenser Wahshi, l'esclave de Jubayr ibn Mut'im. Et donc, une des récompenses, c'est que justement, elle lui donne comme trophée ses colliers qu'elle a fait, ses bracelets, hein, et ses boucles d'oreilles. Et donc, on nous dit wa a'tat, elle a donné khadamaha, les bracelets, wa qala idaha, les colliers. وقرطتها لبوك دوغي لبوندانتيف وحشيا غلام جبير بن مطعم وحشي الاسكلاف دو جبير بن مطعم et ensuite on nous dit وبقرت عن كبد حمزة et elle a éventré Hamza pour en sortir son foie وبقرت عن كبد حمزة. Alors attention, les détails sont assez, on va dire, gore. Hein? Et je vous ai dit, cette version, dans tous les détails, elle n'est pas authentifiée. C'est pour donner la version qui est la plus reprise, c'est celle d'Ibn Ishaq, et ensuite, on conclura par les détails qui sont authentiques et ceux qui ne le sont pas. Et donc, elle aurait, selon cette version, pris le foie, falakatha, et elle l'a mâché, falam tastati an tusiraha, mais elle n'a pas réussi à l'avaler, falafadatha, et donc elle l'a recraché. Mais ça, je peux le dire tout de suite, une des choses les plus faibles dans ces récits qui nous sont racontés, c'est cette phrase, le fait qu'elle aurait mordu le foie, qu'elle l'aurait mâché. Ça, c'est les savants du hadith, les experts du hadith s'accordent à dire que c'est ce qui est le plus faible dans les chaînes de transmission qui sont rapportées. Non. De toute façon, comme je vous ai dit, on reviendra sur ça. ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها. Et ensuite, elle est montée sur un rocher pour s'adresser aux musulmans qui sont réfugiés, les survivants qui sont réfugiés sur la montagne de Uhud. فصرخت بأعلى صوتها. Et elle leur a crié vers eux. Et qu'est-ce qu'elle leur crie ? Un poème. Elle fait un poème par rapport à la vengeance qu'elle a eue. Et elle dit quoi ? Elle dit « Nahnu jazaynakum biyawmi badri. Falharbu ba'da alharbi dhatu su'ri. Nahnu jazaynakum biyawmi badri. Walharbu ba'da alharbi dhatu su'ri. » ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit ici, nahnu jazaynakum bi yawmi badr. Nous vous avons récompensé, entre guillemets, nous avons rendu le jour de Badr. Le jour de Badr, c'était une grande défaite pour eux. Elle dit jazaynakum bi yawmi badr. Voilà, on vous a donné votre récompense, on vous a donné ce que vous méritez pour ce que vous nous avez fait à Badr. Nahnu jazaynakum bi yawmi badr. فالحرب بعد الحرب ذات سعر او ذات سعر. La guerre après la guerre, c'est-à-dire la guerre de Uhud après la guerre de Badr, ذات سعر ou ذات سعر. Et les deux, ça peut fonctionner. السعر, ça veut dire le tarif, le prix à payer. Et donc si c'est سعر qu'elle a dit, vous savez, on n'a pas les, ce qu'on appelle les voyelles. On a A, O, I. On a les consonnes en arabe et après, c'est à toi de te débrouiller pour trouver les voyelles. Et ici, il se trouve que quand on voit sin, a, aïn, ra, ça peut être si'r, ça peut être su'r. Et c'est deux sens différents, c'est deux mots différents qui veulent dire deux choses différentes. Mais les deux sens ils peuvent fonctionner dans cette rime. Donc, Allahu a'lam. Ala kulli hal, en tout cas, si elle a dit dhatu si'ri, elle veut dire que le prix à payer après Badr, c'est celui-là, c'est celui de Uhud. Voilà le prix à payer. Et si elle a dit dhatu su'ri, su'ri, ça veut dire quelque chose de brûlant, de très chaud, de très brûlant. Et donc elle dit, c'est une façon de dire que la bataille de Uhud, que eux, les idolâtres, ont gagné, fait encore plus de mal. C'est encore plus chaud, plus brûlant, hein, fait encore plus de mal aux musulmans que le mal que les musulmans ont fait aux idolâtres à Badr. Donc elle dit wal harbu ba'd al harbi dhat su'ri ma kana 'an 'utbata li min sabri wa la akhi wa 'ammihi wa bakri. Elle dit je ne pouvais pas patienter, supporter pour Utba. C'est qui Utba? C'est son père. C'est son père. Alors certains vont dire, pourquoi elle ne dit pas mon père, Abi? Elle l'appelle par son prénom. C'est un manque de respect, oula. Non, Léana, ici, c'est de la poésie. Et dans la poésie, il y a des règles à respecter. Parmi les règles, il y a des intonations, des consonnes, des voyelles. Il faut les placer convenablement. Et donc, on est obligé de trouver un mot pour dire ce qu'on veut dire, mais un mot qui va respecter le rythme qu'on a choisi dans la poésie. Il y a 16 rythmes dans la poésie, ce qu'on appelle le buhur ushiar. Et quand on en choisit un de ces 16, on est obligé de le respecter à la lettre. Et ici, si elle disait Abi, elle aurait raté son poème, entre guillemets. Les règles de la poésie, ils auraient été ratées, ils auraient été transgressées. Non. Par contre, si elle donne le prénom de son père, là, ça fonctionne bien. Ça va avec le rythme. Donc, elle a dit, « Ma kana li an utbata min sabri. » Je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas pu patienter pour la mort de Utba, donc de son père, à Badr. Il a été tué à Badr. « Wala akhi wa ammihi wa bakri. » Comme je n'ai pas pu supporter, patienter pour la mort de mon frère, puisque son frère aussi, il a été tué. Wa ammihi. Elle dit l'oncle de mon frère, mais c'est son oncle aussi. Mais pourquoi elle le dit comme ça? Encore une fois, c'est pour respecter le rythme de la poésie. Donc elle dit, j'ai pas pu supporter, j'ai pas pu avoir de la patience pour tout ça, pour la mort de mon père, pour la mort de mon frère, pour la mort de mon oncle, ou à Bakri, et pour la mort de mon aîné. Naam, son fils. On avait vu que Hanzala, le fils d'Abu Sufyan, non, lui, il avait été fait prisonnier. Un autre, dont j'ai oublié le nom, qui avait été tué. Ala kulli hal. Et donc, elle les cite ici dans sa rime. Elle dit, voilà pourquoi on s'est vengé à Uhud. Parce que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. On a tué mon oncle, mon père, mon frère et mon aîné. Naam. Et elle dit, shafaytu nafsi wa qadaytu nadri. Ah, j'ai apaisé mon âme. Son âme, elle brûlait de désir de vengeance. Et donc là, elle dit, Et donc, d'une certaine manière, elle prend de haut les musulmans et elle se moque d'eux. Elle dit « Shafaytu nafsi ». Ah, comme certains disent « Ah, c'est hukda ». Yallah. Tartak, explose, yallah. Ou comme ils disent nos amis chlouh, « Baqa ». Tritat baqit, yallah, baqa. Non. Ala kulli hal, elle dit « Shafaytu nafsi », »« Je me suis soulagé ». Ils se sont soulagés par cette défaite pour les musulmans à Uhud et aussi, si on en croit cette version, parce qu'il vient d'être fait comme mutilation au corps des compagnons musulmans. Shafaytu nafsi wa qadaytu nadri. Et j'ai respecté mon serment. Il y en a certaines versions prétendent qu'elle avait fait le serment, qu'elle ne se contentera d'aucune vengeance que quand elle aura le corps de Hamza et qu'elle l'éventrera et qu'elle arrachera certaines parties de son corps, etc. Mais c'est des versions faibles. Mais en tout cas, cette poésie ferait référence à ce serment qu'elle aurait fait. Donc elle dit « Et j'ai respecté mon serment. J'ai fait ce que j'avais promis. Shafaytu nafsi, j'ai soulagé mon âme, j'ai apaisé mon âme et j'ai respecté mon serment. » Naam. Et ensuite, Shafaita wahshi ghalila sadri. Et toi, wahshi, donc c'est wahshi qui a tué Hamza. Donc elle dit, et toi, wahshi, tu as apaisé mon âme. C'est toi qui as apaisé mon âme en tuant Hamza. Fashukru wahshi alayya umri. Pour remercier wahshi, je le ferai toute la vie. C'est-à-dire, je lui en serai redevable toute la vie. Toute la vie, je dois le remercier pour ce qu'il a fait. Naam. C'est vous dire, yani, si on en croit cette version, l'attente de vengeance qu'elle avait, le désir de vengeance qu'elle avait, et la haine qu'elle avait à l'encontre de Hamza ibn Abdel Muttalib et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons de manière générale. Mais elle va devenir musulmane, elle va se convertir plus tard à l'islam. Et ça, c'est une des plus grandes leçons pour nous tous. Quelquefois, tu vois une personne, tu dis, hada, c'est impossible. Regarde ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire. Hada, c'est impossible. Regarde la haine qu'il a. Et pourtant, alors que tous les musulmans vont lui tourner le dos parce qu'ils voient que c'est un danger, ils voient que c'est une menace, ils voient que c'est un mal. Et pourtant, par une cause qu'Allah Azza wa Jalla a décidé, il le guide. Et inversement, combien de fois tu vas voir des personnes, hada, lui manque, comme on dit à la fameuse phrase, il lui manque que l'islam. Yani, comme si. Et pourtant, ça vient jamais. Parce qu'Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Ça, c'est la première chose. Et Allah guide celui qui mérite d'être guidé. Et celui qui mérite d'être guidé, ce n'est pas celui qu'on voit nous dans l'apparence. Il est comme ça, il fait ça, etc. Allah, il sait ce qu'il y a à l'intérieur des personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un te montre le bien qu'il est forcément bien à l'intérieur. Généralement, ça va de pair, mais ce n'est pas toujours le cas. Et inversement, ce n'est pas parce que quelqu'un te montre le mal qu'il est forcément mauvais dans son fond. Généralement, ça va de pair, mais ce n'est pas toujours le cas. Ala kulli hal, donc elle dit, فَشُكْرُ وَحْشِ عَلَيَّ عُمْرِ. Je devrais remercier toute ma vie à Wahshi. Naam. حَتَّ تَرُمَّ أَعْظُمِ فِي قَبْرِ. Je le remercierai toute ma vie jusqu'à ce que mes os s'usent dans ma tombe. Elle veut dire même après la mort. Le seul moment où elle pourra s'arrêter de remercier Wahshi, c'est quand son corps, les os, ils seront devenus poussière. Non. Pour dire combien elle est reconnaissante envers Wahshi. Non. Et ici, cette version, elle nous dit qu'il y a une femme parmi les musulmans. On a dit qu'il y avait des femmes aussi parmi les musulmans. Il y a une femme qui va entendre ça. Et elle ne va pas supporter d'entendre ça. C'est Hind. Elle aussi, elle s'appelle Hind, mais elle s'appelle Hindu Bintu Athafa. Et elle va lui répondre avec les mêmes rimes, puisqu'ici, vous avez entendu dans la poésie de Hind Bintu Utba, ça se termine, ces rimes, elles se terminent par ri. Hein? Elle dit « Jazaynakum biyawmi badri wal harbu ba'da al harbi dhatu su'ri » etc., etc. Et donc elle va lui répondre avec les mêmes rimes et le même rythme. Et elle va lui dire, Khaziti fi badrin wa ba'da badri. Tu es vil, tu es une mauvaise personne, et tu as été humilié. Tu as été humilié fi badri wa ba'da badri. À Badr et après Badr. Donc elle lui répond en disant, puisque toi tu dis que Zarma, vous avez gagné Uhud, donc, et vous vous êtes vengé contre nous. Tu as juste été humilié dans les deux. Et tu t'es humilié dans les deux. À Badr et à Uhud. Ya binta waqa'in azim al-kufri. Toi, fille du médisant. Okay. Elle lui rappelle aussi son père, qui était connu pour la médisance. Elle lui dit, ton père est fille de médisant, donc ton père pratiquait la médisance. Et toi aujourd'hui, dans tes rimes, tu nous parles de ton père. Zarma, tu es honoré par ton père. Ya binta waqa'in azim al-kufri. Fille du médisant, Avim al-Kufri, qui était un grand mécréant. Il avait une grande mécréance. Non. Avim al-Kufri. Et ensuite, elle dit, Sabbahakillahu ghadat al-Fajri. Bilhashimiyin al-Tiwal al-Zuhri. De bon matin. On est en fin de matinée là. De bon matin, après l'aube, tu te permets de t'attaquer. Donc à travers ses rimes, elle s'est attaquée. Et aussi à travers ses actes, si elle les a fait. Tu te permets de t'attaquer aux Hashimiyin, la tribu des Bani Hashim. La tribu des Bani Hashim, c'est qui? C'est la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Tu te permets de t'attaquer de bon matin. Ou Hashimiyin, At-Tiwal al-Zuhri, les grands. Et Zuhri, c'est le nom d'une constellation, d'une étoile. Donc elle compare les compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à des étoiles, à des astres, à des constellations dans le ciel. Naam. Et ensuite elle va plus loin et elle dit Hamza, Hamza Tulayfi wa Aliyu Saqri. Hamza, c'est notre prédateur. Notre tigre. Wa Ali Saqri. Et Ali, c'est notre aigle. Non. Et elle termine par dire Wa nadhru kissu'i fa sharru nadhri. Quant à ton serment du mal, quel mauvais serment tu as fait là. Non. Ala kulli hal. Ensuite, la version, si on va pas citer tous les détails, mais la version, pour résumer, elle dit par la suite, il y a une suite à cette version, c'est que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu aurait appelé le compagnon Hassan ibn Thabit, qui était aussi un poète, un des poètes du professeur sallam, et va lui dire ce que tu as entendu, ce que Hind elle dit, qu'est-ce que tu attends pour répondre? On va lui dire qu'est-ce qu'elle a dit? Et Omar ibn al-Khattab, il va lui répéter les rimes qu'elle a dit. Jazaynakum biyawmi badri, wal harbu ba'da al-harbi dhatu su'ri, etc. Et Hassan ibn Thabit lui aurait répondu par aussi des rimes. Naam. Et parmi ces rimes, encore une fois, on a dit que cette version elle est faible. Ibn Hisham, dans son ouvrage, quand il cite cette version, il dit les autres rimes, nous ne les citerons pas parce qu'elles sont trop insultantes yani, envers Hind. Naam. Wallahu a'lam. La version, comme on a dit, elle est faible. Aïe. Ensuite, dans une autre version, qui elle aussi n'est pas authentique, elle a été affaiblie, une version aussi d'Ibn Ishaq, on nous dit que Abu Sufyan aurait participé à une part de mutilation sur Hamza. Il aurait balafré le visage de Hamza. Et que le chef des Ahabish, vous rappelez ce qu'il est Ahabish? On avait parlé au début de la bataille de Uhud. On avait dit que l'armée idolâtre va faire appel à une milice qu'on appelle les Ahabish. On avait fait un cours exprès, toute une séance exprès sur les Ahabish pour bien expliquer leur histoire et qui ils sont. Donc je vous renvoie, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié qui sont les Ahabis, je vous renvoie aux audios au début de la bataille de Badr. On avait parlé, on avait fait un cours exprès sur les Ahabis. Eh bien, le chef des Ahabis à la bataille de Uhud, c'est le Hulays ibn Zibban. Et le Hulays ibn Zibban serait passé et il aurait vu Abu Sufyan, mais c'est une version qui est faible encore une fois, il aurait vu Abu Sufyan qui balafre le visage de Hamza. Et alors que lui aussi, il est venu pour faire la guerre contre les musulmans, ça ne va pas lui plaire. Mais pour lui, un chef, un homme honorable, ne fait pas ça. Et donc, il va s'adresser à ces hommes, aux Ahabish, qui pour la plupart font partie de la tribu des Bani Kinana, et va leur dire, « Ya Bani Kinana, هذا سيد قريش, يصنع بابن عمه ما ترام. Oh, vous, la tribu des Bani Kinana, regardez. Genre le chef de la tribu Quraysh, regardez ce qu'il fait à son cousin. C'est son cousin. Regardez ce qu'il lui fait. Non. Et Abu Sufyan aurait répondu Wayhakaktumha anni, wayhakaktumha anni fa innaha kanat zalla. Malheur à toi, ne le divulgue pas, c'était une erreur de ma part. Walakin, comme on a dit, cette version, elle n'est pas authentique. Si cette version, elle n'est pas authentique, et la version d'avant où je vous ai raconté tous les détails, elle n'est pas non plus authentique, qu'est-ce qui nous prouve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous prouver que cet événement est arrivé ou non? Nous, si on n'a que des versions qui sont faibles, qu'est-ce qui nous prouve que les corps des musulmans ont vraiment été mutilés? Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Ils ont été mutilés. Mais ça ne suffit pas pour dire que c'est vrai, ça arrive. C'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Comme aujourd'hui, quand il y a une information qui se transmet sur WhatsApp ou là sur les réseaux sociaux, elle est partagée, il y a quelqu'un qui le... On ne sait pas c'est qui ce quelqu'un, on ne l'a jamais vu. Mais il fait un post, il donne telle information. Ou il fait une vidéo, il parle de quelque chose, d'un bénéfice médical si tu manges telle chose, etc. Bref, chacun peut dire ce qu'il veut, il peut dire n'importe quoi, n'importe comment. Et quelqu'un, s'il y a l'idée de partager, que ses autres ils partagent, ils partagent, ça va devenir une vérité. Mais tu l'as vu où? Sur WhatsApp. Dans une vidéo. Ah, mashallah, la source. Ajib. Non. C'est pas parce que tout le monde le dit et tout le monde le répète que c'est vrai. Pour que ce soit vrai, il nous faut la source. Et si j'ai la source, est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est vrai? Non. Parce que si on te dit la source, c'est WhatsApp, c'est pas suffisant pour me dire que c'est vrai. Si on me dit la source, c'est BFM TV, je vais ramener les problèmes ici. Si on dit que la source est telle chaîne ou la telle média ou là, c'est pas suffisant non plus. Il faut que ce soit quelqu'un ou un organisme ou un média qui est vraiment connu pour son honnêteté et son intégrité. Non. Et c'est ce qu'ils font les savants du hadith. Quand ils font l'enquête sur la chaîne de transmission, ils regardent chaque personne, chaque narrateur pour voir si c'est fiable ou c'est pas fiable. Donc la question c'est, est-ce qu'on a des versions avec une chaîne de transmission authentique qui nous dit clairement que les musulmans, ils ont été mutilés? Il y en a tout ce qu'on a raconté, même s'il y a des détails, même si les gens, ils aiment bien les histoires comme ça avec les détails, etc., même si c'est gore. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai ou là, c'est pas vrai? On a tout d'abord une version qu'on peut utiliser pour prouver que les corps, ils ont été mutilés par les idolâtres. Cette version, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد مثل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية لتركته حتى تأكله العافية وحتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. Donc cette version, elle nous dit, le jour de Uhud, à la fin de la bataille, quand le prophète Sallam va descendre de la montagne de Uhud, il va passer à côté du corps de Hamza, alors qu'il est mutilé. Le prophète Sallam va passer à côté du corps de Hamza alors qu'il est mutilé. Et le professeur Hassan va dire, si Je ne craignais pas que Safiya. Safiya, c'est la sœur de Hamza et c'est la tante du prophète sallam. Et elle aimait beaucoup Hamza. Et donc elle sait qu'elle va apprendre que Hamza est mort, qu'il a été mutilé. Et donc il dit ici, je ne craignais pas que Safiya ne soit prise de trop de tristesse. J'aurais laissé le corps de Hamza ici jusqu'à ce que hatta ta'kulahu al-afiya, jusqu'à ce qu'il soit mangé par les animaux. وَحَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَعِ. Et jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le fasse ressusciter le jour du jugement dernier à partir des ventres des oiseaux et des félins qui l'auraient dévoré. Yani, alors d'abord, on va expliquer pourquoi le prophète a dit ça, mais avant ça, est-ce que cette version elle est authentique ou pas? Parce que dedans, il y a la phrase que وَقَدْ مُثِلَ بِهِ, et il a été mutilé. Cette version, elle est rapportée par l'imam Tirmidhi, et l'imam Tirmidhi a jugé fiable la chaîne de transmission. Elle est rapportée également par l'imam Abu Daoud. Elle est rapportée par l'imam Al-Bayhaqi. Elle est rapportée par Tabari. Et les commentateurs, qui sont des grands savants du hadith de l'imam Tabari, ont dit que cette version était sahih. Et il y a aussi un travail d'enquête qui a été fait par l'imam Al-Hakim sur cette chaîne de transmission. Et il dit huwa sahihun ala sharti muslim. C'est une version authentique qui remplit toutes les conditions qu'exigeait l'imam muslim pour authentifier un hadith. Donc cette version, on peut la considérer comme fiable et authentique. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je l'aurais laissé jusqu'à ce qu'il soit dévoré par les animaux et que Allah azza wa jalla le ressuscite à partir des ventres des oiseaux et des félins qui l'ont dévoré? Bien, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est une manière de dire et alors que vous le mutilez, et alors que vous le découpez, on aurait pu même le laisser, nous. C'est pas ça qui compte. Maintenant qu'il est mort, son âme elle est partie et il est auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il est vivant auprès d'Allah. Et il profite de sa nouvelle vie auprès d'Allah. Ça, c'est juste le corps. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez. On aurait même pu le laisser pour que les animaux le dévorent. Ça, c'est la première raison pour laquelle le professeur me dit ça. Et la deuxième raison, c'est une façon de dire, ça fait augmenter sa récompense. Ce que vous lui avez fait, ça fait augmenter son martyre et sa récompense. Et nous, on aurait même voulu lui faire augmenter sa récompense en laissant son corps là et en laissant les animaux, entre guillemets, le manger. Non. En tous les cas, nous, on a mentionné cette version pour préciser que cet événement a bien eu lieu, puisqu'il y a la phrase Marran Nabi Sassam bi Hamza wa qad muthila bi. Le professeur Sassam est passé à côté de Hamza et il était mutilé. Donc Hamza a bien été mutilé. Il n'y a pas que Hamza, il y en a d'autres. Est-ce qu'on a des versions qui nous parlent d'autres? Oui, on a une version dans l'authentique de Muslim. Qu'est-ce que cette version nous dit? C'est le compagnon Jabir ibn Abdillah. Vous vous rappelez, Jabir ibn Abdillah, il a perdu son père, Abdullah ibn Haram. Afwan. On en avait parlé au début de la bataille de Uhud. Son père a laissé des filles et des dettes et il avait dit à son fils Jabir ibn Abdillah, je te laisse comme dernière volonté. Je te laisse comme dernière volonté mes filles, occupe-toi bien, et mes dettes, acquitte-toi de mes dettes. Non. Et à la kulli hal, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il va dire dans cette version qui est authentifiée par l'imam muslim, Jabir ibn Abdillah, il va dire لما كان يوم احد quand c'était le jour de احد جي ابي ابي مسجى, on a ramené le corps de mon père enveloppé d'un drap. وقد مثل به, il était enveloppé d'un drap parce qu'on l'avait mutilé. فاردت ان ارفع الثوب, et j'ai voulu découvrir le drap, lever le drap pour voir mon père. فنهاني قومي, et mon peuple, donc les gens autour de moi, ils m'ont interdit de le faire, ils m'ont empêché de le faire. On avait des versions qui disent que lui essayait de tirer le drap, et eux, ils tiraient le drap de l'autre côté pour pas qu'il voie son père dans cet état. Et il dit, « Farafa'ahu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au amara bi raf'ih. » Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enlevé le drap, ou qui plutôt a ordonné aux compagnons de le laisser, yani, de laisser le, s'il veut le voir. Il sait qu'il est mutilé, s'il veut voir son père, laissez-le. On lui avait dit dans quel état il est, après s'il veut faire ce choix, c'est son choix. Non. Mais ça, on va revenir sur ça, Diana. On parlera plus tard de quand justement le professeur Hassan et les compagnons vont découvrir les corps, et ce qui a été fait au corps, et ce que le professeur Hassan va faire après pour les corps. Ça, on reparlera de cette version. Mais là, on citait juste cette partie de la version pour dire quoi ? Pour dire que c'est dans l'authentique de Muslim. Et ça nous précise que, en plus de la version précédente sur Hamza, on a la version qui nous parle du compagnon Abdullah ibn Haram, qui lui aussi a été mutilé. Aïwa. On va pas citer tous les noms de ceux qui ont été mutilés. On a une troisième version aussi qui a été authentifiée par les commentateurs de Tabari, qui a été authentifiée par Al-Hakim et qui est rapportée par Tirmidhi. Cette version, elle nous dit quoi ? Elle nous dit « Usiba yawma Uhudin arba'atun wa sittuna min al-ansar wa sittatun min al-muhajirin famathalu bi qatlahum » Le jour de Uhud, 64 compagnons parmi les Médinois ont été tués. Et 6 parmi les Mécois ont été tués. Donc 70 en tout. On reviendra sur les nombres plus tard, Inch'Allah. Mais ils précisent, وَمَثَّلُوا بِقَتْلَهُمْ Et ils ont mutilé leurs morts. Les idolâtres, ils ont mutilé les morts des musulmans. Et donc là, ils nous précisent le nombre. Et il nous précise que c'est tous les morts qui ont été mutilés. Les morts, de manière générale. Non. Et then, ici, on voit donc bien, parmi ces quelques exemples, et on aurait pu citer d'autres versions, mais je me contente de ces trois versions. Il y en a une version qui parle de Hamza, et de la mutilation de Hamza. On a une version qui donne un autre exemple. Il n'y a pas que Hamza, Abdullah ibn Haram. Et on a une version qui parle des compagnons de manière générale, et ces trois versions sont authentiques, donc cet événement est bien arrivé. Maintenant, avec tous les détails qu'on a cités, hein, surtout avec Hind, radiallahu anha, qu'elle a pris le foie, est-ce que ça c'est vraiment arrivé ou c'est pas arrivé ? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, bi-ibnillah et tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.